radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Serge demande « Tu vas où ?» Guillaume lui dit « Vers la Bastille. » « Oh, mais c'est loin. » « Dans quel sens ?»« Là. » »« Mais tu dois prendre le car, je vais te montrer. » »« J'ai le temps ?»« J'y vais moi aussi. » Et se met en route. Serge lui dit « J'ai pas envie, c'est d'aller chez moi. » Chez mon père. Il habite une maison à Versailles. Mon père est directeur des relations humaines à Tremblant. Tu le vois, surtout. Tu ne lui parles pas que tu m'as vu chez Judith. Mais c'est pas que je fuis pour aller la voir. Je serais furieux et jaloux. Il aime bien la Judith. D'ailleurs, tout le monde l'aime, cette fille. Toi, tu vas la revoir? Je ne sais pas. J'ai que 3 jours. Bien, je lui dis. Moi, je suis sûr que tu vas le revoir. Tu en as de la chance. Il marche un moment. Serge lui parle de sa tôle, de Tremblant. Une drôle de boîte où tout le monde couche avec tout le monde. Mais celle qui a le plus de succès, c'est Judith. La lapin dit qu'elle les a tous sus, sauf le fils du président, parce que c'est un ange. Tu te connais, toi, le fils du président? Non. Mais bien, à peu près de mon âge. Peut-être plus vieux. Mais bon. Lui, il aime, c'est une Athénie Poncet. Il n'a rien du tout. On ne sait même pas d'où elle vient. Les Tremblants sont contre cette relation. Mais Gilbert y tient beaucoup. Julien, Gilbert a un ami qui s'appelle Julien Sèvres. Et toi? T'as des amis? Guillaume lui dit que non. Il lui parle de ses parents, de sa vie à Lyon. Ils sont arrivés à l'arrêt du car. Bon prix. Serge dit, il y en a pour 30 minutes. On peut parler. Tu vois, c'est loin. Tu m'accompagnes jusqu'à la gare de Lyon? C'est le terminus du car. Puis là, ben, tu pourras aller à la Bastille à pied. Je te montrerai. Je lui demande. Tu prends le train? Non. Demain, dans la soirée, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Dormir dans la gare. Guillaume le trouve sympathique. Alors lui dit, bon, tu coucheras dans ma chambre, à l'hôtel. Ça te gêne pas? Non? Merci. Et il rit tous deux. Serge lui dit, si je lui dis, c'est ça? Elle va se poser des questions. À l'hôtel, le concierge est absent. Guillaume fait monter en vitesse Serge à sa chambre. Une fois dans la chambre, Serge dit, c'est pas gay ici. C'est la première fois que je me trouve dans un endroit pareil. Guillaume lui demande, tu préfères peut-être s'y aller coucher ailleurs? Non, ça va, mais c'est rigolo. Bon, on se couche? Et il plonge sur le lit. Mais la tête la première se retourne et met ses mains derrière la nuque. C'est pas si mal. Revient le rejoindre Guillaume. Ils rient tous deux. Puis se sont levés et se sont déshabillés. Pour coucher dans le lit. Guillaume se sent gêné, mais sans plus. C'est la première fois qu'il couche avec un garçon comme ça. Cherche lui dit « Bonne nuit » et se retourne. Guillaume le voit s'endormir. Demain, il se réveille. Auprès de lui, Serge, qui dort, la tête contre son épaule. Le pouce dans la bouche, les cheveux défaits. Il sourit et se dit, c'est un vrai gosse. Il le trouve attendrissant. Pauvre Serge, tous le trouvent attendrissant, mais si l'on savait ce qu'il attend, on le trouverait encore plus attendrissant. Voir l'élu. Puis, ils se sont réveillés, ont pris un petit déjeuner ensemble et se sont quittés, bons amis. Guillaume n'a pas le temps de retourner chez Judith. Il faut d'abord qu'il aille s'acheter des vêtements propres, parce que ses vêtements sont dans un état pas possible. Donc il s'est acheté des vêtements propres et est allé passer ses examens. Ses examens se sont bien passés. Il a eu son diplôme, il est heureux. Il est rentré à Charbonnières. Ses parents sont satisfaits de lui. Son père lui dit, maintenant, ce qui va te valoir, c'est que tu ouvres un cabinet. Guillaume est surpris. Il savait qu'il devait le faire, mais il s'en rendait pas vraiment compte. Son père lui dit aussi, voilà. Durant ton absence, nous avons bien réfléchis. Et nous avons décidé, c'est de te louer un appartement à Lyon, pour cet effet, et pour que tu y loges. Et on sait que dire, c'est tellement rapide. Le lendemain, on lui montre un appartement qu'a loué son père pour lui. C'est à Lyon, mais pas vraiment dans le centre, c'est au point du jour, dans un immeuble cossu, où il n'y a que des bureaux et des cabinets de médecins. Lui est au premier étage, porte droite, un trois pièces. Il le visite avec ses parents. Son père lui demande, « Ça te va ?»« Oui, merci. » Tout va très vite. À peine rentré de Lyon, à Lyon, qu'on lui dit de vivre dans un appartement, dans un quartier qu'il ne connaît pas. Sa mère et lui vont dans les magasins acheter des meubles tout faits ou à monter. Il a une pièce pour le bureau, la plus grande, une salle d'attente, sa chambre, cuisine, salle de bain et WC. C'est propre, net, impeccable. Une fois que tout a été mis en place et que la plaque a été commandée, ton père lui dit, pendant le repas du soir, « Eh bien voilà, tu peux rentrer chez toi maintenant. » Il est tout retourné. Ça s'est passé si vite, il a l'impression qu'on le met dehors. Il dit, « Oui ?» Ses parents lui payent le loyer jusqu'à ce qu'il peut. Et même, en plus, l'eau, l'électricité, le téléphone, les impôts. On lui donne une petite pension pour la nourriture et le reste. Il passe sa dernière nuit dans sa chambre. La chambre de ses parents. La maison de ses parents. Dans sa chambre d'enfant. Passe une nuit triste. Le lendemain matin, en prenant son petit déjeuner avec sa mère, elle lui demande « Tu vas chez toi ?» Il lui dit « Oui ». Elle aussi est triste qu'il quitte la maison. Mais il le faut bien, s'il ne le faisait pas, il resterait toute sa vie comme ça chez eux, si on ne le forçait pas. Et puis c'est pour son bien qu'on le fait. Et puis il a choisi un travail qu'on peut exercer à la campagne. Et il se dit que ce serait mieux pour lui qu'il vive seul. Bien sûr, elle est très inquiète, il est si fragile. Elle, personnellement, elle aurait bien attendu encore quelques mois. Mais son mari en a marre de voir son fils ne rien faire. Et puis il a hâte, il commence à travailler. Et il dit, je t'amènerai chez toi en allant au travail. Tu vas préparer tes valises ? Oui. Il a le corps gros. Parce qu'il croit qu'il veut qu'il s'en aille. Après le petit déjeuner, ils sont allés à la chambre préparer les valises, mettre des vêtements, les livres, les cahiers. Ils font ça, tous les deux en silence, très émus, puis ils quittent la maison, la regardent une dernière fois. Bien sûr, ce n'est pas la maison du pays bleu et vert, mais tout de même bien cette maison, avec son jardin, sa piscine. Ça lui fait mal de quitter tout ça. Sa mère lui dit, tu reviendras, tu sais. Il lui dit, oui. Le trajet se passe en silence. Elle les dépose devant l'entrée de son immeuble. Ils s'embrassent, le corps gros tous deux, mais se dit qu'il fallait bien qu'un jour ou l'autre ça se passe. Prend sa valise et la quitte. Entre dans son allée. Le corps gros. Ouvre la porte de son appartement. Il a l'impression, c'est de rentrer chez quelqu'un. Ça sent le neuf, les meubles et les produits de nettoyage. Il fait chaud. A l'impression d'étouffer, va déposer de la valise dans la chambre. Et fait le tour de l'appartement. Ça lui paraît bizarre. Ça semble vide. pas l'impression d'être chez lui. Il faut visiter, il ne sait que faire. S'assoit sur la chaise de la cuisine, comme ça. Et maintenant, quoi? Il ne sait. Il ne sait rien faire, ni toucher. Le vide lui fait peur. Que veut-il faire dans ce grand appartement tout seul? Le temps passe. Il a faim. Il n'a rien à manger. Que faire? Et on se dit qu'il faut qu'il aille chercher quelque chose à manger. Il ne sait quoi. Sort de l'appartement. Il s'aperçoit qu'il y a un autre appartement en face du sien. C'est celui d'un médecin, d'après la plaque. Ça se gêne. Il a peur et honte que l'autre le voie. Une fois dehors, il faut qu'il cherche dans ce coin où il y a un magasin, quelque chose qui soit pour manger. Il voit un café, fleuriste, bureau de tabac, coiffeur. Ah, voilà, une épicerie. Il est entré, il ne sait pas quoi prendre. La vendeuse est une fille de taille moyenne, avec de gros yeux, cheveux châtains, coupés courts. Elle fait très quelconque, blouse blanche. Elle lui demande, vous désirez? Il ne sait quoi prendre. Quoi prendre? Alors il prend un paquet de BM. Et s'en retourne. Une fois chez lui, il va manger à la cuisine son BM. Des miettes tombent à terre. Il se dit qu'il faut qu'il fasse attention. Il n'a rien sans lire. Surtout pas le bureau ni la salle d'attente. Il décide de ne pas y aller. Sa vie va se dérouler dans sa chambre et à la cuisine. Se sent encore moins bien chez lui. La journée, il la passe assis sur une chaise de la cuisine, sans savoir quoi faire. Le moindre bruit de l'allée, les coups de sonnette de sa voisine, le font sursauter, parce qu'il croit que c'est chez lui qu'on sonne. Ça, il ne veut pas. Le soir, il retourne à sa chambre. Voit la valise sur le lit. Décide, c'est avant de s'endormir, c'est de la vider et de ranger les choses. C'est ce qu'il fait sans entrain. Le médecin lui a donné des antidépressifs et des calmants pour dormir, etc. Ce qui fait qu'il passe une nuit à peu près correcte. Il se réveille, il a chaud, se sent mal. Une fois debout, ne sait que faire. Elle va à la salle de bain, prendre sa douche. Pour le petit déjeuner, voit qu'il n'a rien. Surpris, ça l'énerve. Il décide, c'est de faire des courses. Sort de son appartement, toujours gêné, parce qu'il a peur que la voisine puisse le voir, entrer et sortir chez lui. Va à l'épicerie acheter ce dont il a besoin. dans des plats cuisinés, du pain, du lait, café, fruits. Je trouve que c'est cher et qu'il faut qu'il fasse attention avec son argent, parce que ça risque de diminuer rapidement. Dans la journée, le téléphone sonne. Il sursaute. Prends l'écouteur. Oui. C'est maman. Ça va? Il lui dit, ça va. Tu es bien? Oui. Tu as mangé? Oui. Dans la journée, le téléphone a sonné. Il sursaute. Aux à peine décroché. Oui, c'est moi, maman, ça va? Il lui dit, ça va. Tu es bien? Oui. Tu as mangé? Oui. Qu'est-ce que tu as à manger? Des plats cuisinés et des fruits. C'est bien ça, mon grand. Je t'embrasse, moi aussi. Ça fait des plats cuisinés qui mangent à même la barquette. Et lorsque c'est fini, ils jettent à terre les barquettes. La cuisine devient vite un foutoir, la chambre aussi, le lit jamais fait, des canettes de bière, du vin, des bouteilles de vin, parce qu'ils boivent de la bière et du vin, fument aussi beaucoup. Passe son temps à la cuisine et à sa chambre. S'ennuie ferme et n'ose pas bouger. Dans la journée, il lit un peu, écoute la radio à la cuisine. Il a l'impression d'être enfermé dans cet appartement qui n'est pas à lui. Il a peur de sortir à cause de cette conne qui est en face de chez lui. Et puis dehors, il a l'impression qu'on l'observe. Elle est où? Il n'y a rien dans ce quartier de merde. Il est sur un plateau. Pour aller en ville, il faut faire une grande et longue descente. Après, il faut la remonter. C'est chiant. Bien sûr, il y a les transports en commun, mais c'est cher à force. Alors, à part ses courses, il ne sort pas, parce qu'il n'y a rien dans ce quartier de merde. Sans lui ferme. Apport de tout. Du bruit de l'allée, apport qu'on sonne chez lui. Les journées lui semblent longues. Alors il boit de plus en plus et fume beaucoup. L'appartement peste la fumée, l'alcool, la bière. La plupart du temps, il reste assis ou couché. Ce qui fait qu'il grossit, sans les dits, à honte lorsqu'il se voit dans la glace de la salle de bain. T'es qu'une grosse merde. Il se dégoûte. Il sait pourquoi il est comme ça, ce qu'il faudrait faire, mais ne peut. Il s'ennuie. Alors bien sûr, il boit. Et puis comme les fruits coûtent cher, il n'en mange plus et mange surtout des pizzas. La journée fait de longues siestes. La cuisine, la salle de bain et la salle d'eau se dégradent. Des vêtements à terre, n'importe comment, mélangés avec des barquettes vides de congelés, de cartons, de pizza, de canettes de bière. Les mouches commencent à envahir l'appartement. Cette vie le déprime. N'a goût à rien. Tout le dégoûte. Avoir des clients, des patients, ça l'effraie. Il en a peur. Le syndic a posé sa plaque. Il tremble, consonne pour un rendez-vous. Si c'était que de lui, il enlèverait cette merde. L'ennui le rend mélancolique et dépressif. De ne rien faire, de ne plus le goût à faire quoi que ce soit. Pauvre Guillaume, pauvre Guillaume. La vie n'est pas drôle pour lui. Déprime, déprime. Sa mère l'invite dimanche pour déjeuner. Ça le surprend et en même temps, ça le gêne de retourner dans sa vie où il était. Où il va parce qu'il a peur qu'elle aille chez lui. Il se dit qu'elle va voir le foutoir et qu'elle va faire des réflexions de la façon dont il vit. Et ça, il ne supportera pas. Il a très peur de voir comment il vit, parce qu'il a honte. Alors il aime mieux y aller. Ça lui fait tout drôle de retrouver son ancien quartier, la rue, le portail. La pluie. Oui, c'est moi. Ah ! Guillaume. L'impression d'être devenu un étranger pour ses parents. Le portail s'est ouvert. On trouve le jardin, la maison. Ça lui fait mal. Le domestique qui fait entrer. Comme un étranger. Un invité. Lui, Guillaume. Il est mal. Il est venu un étranger chez ses parents. Retrouve sa mère au salon. Elle est très émue. Elle sait comment faire. Elle sent plus belle et plus jeune que dans ses pensées, que dans ses souvenirs. Plus grande, mince. Elle va à lui. Le prend dans ses bras. Le prend dans ses bras pour l'embrasser. Il voit qu'elle aussi est émue de le voir et lui demande « Comment vas-tu ?» et lui dit « Ça va. » Elle est triste. Elle aurait aimé qu'il lui dise que ça ne va pas, qu'elle lui manque. Mais non, bien sûr, il vit sans contrainte. Il doit être heureux. Elle lui dit, tu as grossi. Il est tout rouge de honte et se dit, il vieillit, il ne sera plus jamais mon petit garçon. C'est étrange qu'il devienne aussi gros, un si gros jeune homme. Dans la famille, personne n'est gros. Soupire et se dit, c'est la vie. Et puis, il a encore de beaux yeux verts. Il s'est habillé propre et bien lavé. Ils ont mangé ensemble. Et il demande ce qu'il fait de ses journées. S'il a des clients. Non. Ça viendra, mon chéri. Ça viendra. Alors que fais-tu ? Il lui dit rien. Elle se dit, il ne veut pas me dire ce qu'il fait. Elle est triste. Après le bon repas, ils sont allés dans le jardin. Il a voulu se baigner dans la piscine. Elle a vu qu'il avait pris du ventre, ça l'a triste, mais se dit que c'est l'âge. Puis en fin de journée, sa mère lui a dit, je dois aller chez une amie malade, je te ramène. Il est surpris et se dit qu'elle le met à la porte, ça lui fait mal. Le trajet se passe en silence. Ils n'ont plus rien à se dire, parce que chacun sa vie, vie différente l'une de l'autre. Se dire au revoir, il y a de la tristesse, l'autre pour l'autre, mais chacun le cache. Et cette vie de merde recommence pour Guillaume. Il s'ennuie, déteste cette vie, cet appartement. Il ne se sent pas chez lui. Parce que la moitié de l'appartement n'est pas pour lui. Les journées sont longues. Bois. Et fume beaucoup aussi, n'a pas envie de sortir. Il déprime de plus en plus. Une fois par semaine, il va voir le coq. Mais il ne dit pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose à se dire. Le coq lui dit simplement que ça ira mieux lorsqu'il aura du travail. Lui, du travail, il en veut. Mais en même temps, il en a peur. Peur. Et puis, même si sa vie est une vie de merde, comme il dit, si un client venait, ça le dérangerait dans sa merde. Et il aurait peur du client. Comment pourra-t-il se comporter avec lui? Comment lui devra-t-il se comporter avec le client? Le client, le patient, je veux dire. Puis il faudra faire le ménage. Et oui, encore des emmerdes, laver les WC. Et là, il n'en a pas du tout le courage. Pauvre Guillaume, prisonnier dans cet appartement de ce quartier où il n'y a rien. C'est dur pour lui. Des fois, il pleure. Il se dit qu'il n'aurait jamais dû se lancer là-dedans. Et qu'il n'y arrivera jamais à rien. Qu'il n'est qu'une merde. Lui qui souhaitait travailler, fonder une famille, c'est mal parti. L'argent file vite et qu'il faut qu'il fasse attention à ses dépenses. Toujours calculer. Bien faire attention. Parce que c'est le père qui paye. Bien sûr, les clopes, la bière, ça finit par coûter cher à crever un budget. Le temps passe encore. Il décrit de plus en plus. La bière fait moins effet. Alors, il essaye le vin. Et puis, il se dit que ça fait moins grossir. Il achète du vin et boit 1,5 litre par jour. Ça le calme un peu sans l'angoisse. Mais des jours, ça ne suffit pas. Il est dans un état terrible. Il a peur de tout. Du moindre bruit. Que le téléphone sonne. Ça le fait sursauter. Il pense que la vendeuse le regarde d'une drôle de façon. Il a peur des gens qui voient dans la rue. A honte de ce qui est devenu. Sans lui ferme dans sa cuisine. N'a goût à rien. Moins on en fait, moins on veut en faire. Pauvre Guillaume. Lorsqu'il se regarde dans la glace, avec son t-shirt et son caleçon dégueulasse, il se dégoûte à honte de ce qui est devenu. Sa mère lui demande des nouvelles de temps en temps. Il lui dit que ça va, à honte, à peur qu'elle ne vienne et qu'elle voie comment il vit et ce qu'il est devenu. Un jour, sa déprime est tellement forte qu'il se souvient du cannabis. Oui, mais il ne peut aller en chercher. Alors il pense à Arlette. Elle peut. Il décide d'aller la voir. Prends une bonne douche. S'habille le mieux qu'il peut pour aller chez elle. aller chez elle est obligé de prendre plusieurs cars. C'est long. Ils sont chez elle. La porte s'ouvre, c'est elle. Tiens, c'est toi. Il lui dit oui. Il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Viens, te vois, je peux entrer. Entre. J'ai pas beaucoup de temps. Alors, il lui dit, rien. Qu'est-ce que tu as fait durant ce temps? Ben, j'ai ouvert mon cabinet. C'est bien ça, t'as des clients? Pas encore. Il se dit, que ça viendra? Elle lui dit, oui, ça viendra. Elle le trouve pas bien, a pitié de lui. Il est chiant, mais elle l'aime bien. Bien sûr, c'est difficile à supporter. Elle n'a pas la patience pour ça. Il lui demande, tu m'en donnes un peu? Elle lui dit, j'en ai juste pour moi. Et puis elle dit, bon. Tiens. Merci. Tu es venu juste pour ça? Non. Elle sourit. Elle lui dit, tiens, va. Une demi-heure plus tard, il la quitte. Elle lui dit, surtout ne reviens plus pour ça, t'as compris? Il est triste. Il se dit qu'elle ne veut plus de lui. Le temps passe. Il prend son cannabis et du vin et du tabac. Trop faible, très faible. Je sens extrêmement faible. Je sens pas la force d'aller chercher le cannabis chez Arlette. Alors il téléphone. Pour qu'elle lui apporte. Elle est furieuse. Lui dit, tu me fais chier. Malgré tout, elle va le lui apporter. Parce qu'elle ne peut pas s'empêcher d'avoir pitié de lui. Elle aime malgré tout ce gros con. Sonne à la porte. Lui tend le paquet et se sauve. Ça la dégoûte qui est dans leur relation. Cette merde. Lui, furieux, ne comprend pas ce geste. Croit qu'elle ne le veut plus, qu'elle ne l'aime pas. Et ce geste devrait lui prouver le contraire. Alors il se met en rage. Qu'elle se comporte comme ça. Salope. 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 Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.